Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts.
Surtout connue en tant que pionnière de la danse et de la chorégraphie contemporaine, Loy Fuller est en réalité un artiste complet. Danseuse, actrice, chorégraphe, metteur en scène, impresario, inventeur. Elle a mis en relation directe la science et l'art en s'appropriant les dernières découvertes scientifiques de l'époque. Cette femme inclassable incarne pleinement l'enthousiasme de cette fin du XIXe siècle pour l'avant-gardisme et le progrès scientifique. À tel point que ses contemporains, admiratifs de ses créations, l'ont surnommée la fée électricité. Marie-Louise Fuller, dite Loy Fuller, est née aux États-Unis près de Chicago en 1862. Elle débute dans le théâtre amateur à l'âge de 4 ans, mais commence officiellement sa carrière à l'âge de 12, faisant d'abord de la pantomime. À partir de 1883, elle se lance dans une carrière de danseuse. Sensible aux revendications féministes, elle danse sans collant et dans une tenue quasi transparente, ce qui scandalise déjà. N'hésitant pas à incarner des rôles masculins, elle remporte un grand succès dans le rôle d'Aladin, le héros d'une pièce à grand spectacle. En 1889, Loy Fuller crée sa propre compagnie. Un jour, elle choisit d'incarner une femme sous hypnose et son costume se compose d'une longue chemise de soie blanche. Lors de la représentation, elle improvise de grands mouvements faisant voler le voile de soie pour interpréter ce que ressent son personnage. Le public réagit spontanément en interprétant les figures qu'elle crée ainsi. Un papillon, une orchidée. Le succès est immédiat et Loy tient là l'idée de sa première chorégraphie. Elle la met au point en y ajoutant des effets de lumière et l'intitule « La danse serpentine ». Le 15 février 1892, elle se produit pour la première fois au Park Theater de Brooklyn à New York. Le succès est immense. Très vite, elle dépose les brevets du fruit de ses recherches sur les bâtons incorporés au voile ainsi que sur ses jeux de lumière. Mais hélas, elle a un temps d'avance et on ne lui reconnaît pas cette invention. Si bien que n'importe qui a le droit de reprendre ses trouvailles. Elle est tellement copiée que Thomas Edison présente en 1895 le premier film colorié à la main intitulé « Annabelle la Serpentine Dance », interprété par une de ses nombreuses imitatrices. Loy Fuller décide de se rendre en Europe. À 30 ans, elle est engagée aux Folies Bergères et la date de ses premières représentations, le 5 novembre 1892, est annoncée à grand renfort d'affiches. De nombreux artistes créeront les affiches de ses spectacles pendant les 10 années qu'elle passera aux Folies Bergères, comme Fernand Sigismond Bach, Choubrac, Chéret ou Toulouse-Lautrec. Les trois chorégraphies présentées le soir du 5 novembre 1992, la danse serpentine, la violette et le papillon, font un triomphe. Il faut préciser que ce spectacle inaugure une nouvelle ère dans la danse, par ses mouvements amples et sinueux et continus des bras. En effet, celle de rares artistes dont Jeanne Avril avait osé le solo danser sans corset, jouant presque exclusivement de ses bras, à l'opposé de la danse académique, où tout part des pieds. Loy Fuller expliquera dans ses mémoires « Cette nouvelle création, à défaut d'un mot plus adapté, fut appelée une danse. Mais ce n'en était pas une, c'était une vision vibrante venue des profondeurs de l'obscurité. En effet, elle élimine les feux de la rampe et les coulisses, transformant la scène en une véritable boîte noire, ce qui est une révolution, car tendre une scène en noir était tabou à ce moment-là. Pour la première fois, la lumière électrique fait partie intégrante d'un spectacle. Loy projette des faisceaux coloris sur ses voiles, elle imagine des dispositifs scéniques s'appuyant sur des effets lumineux inédits, avec des jeux de miroirs et des planchers de verre. Elle crée également des costumes dont certains permettent de lancer des voiles à plus de 6 mètres de hauteur. Ainsi, la fée électricité, Loy Fuller, révolutionne les arts de la scène et devient l'une des artistes les plus importantes et les mieux payées dans le monde du spectacle. En 1898, elle aménage un laboratoire lui permettant de poursuivre ses recherches sur les effets lumineux. Elle déposera 10 brevets afin de protéger ses procédés d'éclairage et ses sels phosphorescents qu'elle élabore elle-même et applique sur ses costumes. Elle se lie d'amitié avec Camille Flammarion et devient membre de la Société d'astronomie. Elle rencontre Thomas Edison et les frères Lumière. Elle se rapproche de Pierre et Marie Curie et leur demande de l'aider à confectionner un costume phosphorescent à base du radium qu'ils viennent de découvrir. Ils refusent, mais elle leur offre un spectacle privé pour les remercier de leur réponse et monte ensuite un spectacle intitulé « La danse du radium ». Elle suscite l'engouement du tout Paris et compte parmi ses amis et admirateurs Auguste Rodin, Toulouse-Lautrec, le symboliste Georges Rodenbach, qui lui consacrera plusieurs pages élogieuses, et l'architecte Hector Guimard. En 1900, au moment de l'exposition universelle, Loy Fuller refuse de faire partie du programme du Palais de la Danse et crée son propre théâtre. Elle y présente ses danses lumineuses et fait découvrir la troupe de Sada Ayako, première femme actrice du théâtre japonais dont elle produit la tournée européenne. Alors qu'elle avance en âge, il lui devient difficile de se produire elle-même. Elle décide donc de fonder une école et entame une tournée avec ses danseuses en Europe. Elle invite Isadora Duncan, alors inconnue, à les rejoindre. Elle sera son impresario pendant quelques temps. Même si la quasi-nullité de la jeune danseuse choque, Loy voit en elle un précurseur de la danse moderne. En 1912, elle met en scène deux extraits du Nocturne de Claude Debussy, Les nuages et les sirènes. Peu à peu, les critiques, qui jusqu'alors considéraient ces spectacles comme du music-hall, commencent à comprendre les danses de Loy Fuller comme un temps de l'art, et elle les amène à introduire la première notion de performance. Depuis 1905, Loy s'est installée avec Gabriel Bloch, qui devient également son associé. Dans ces années d'avant 1914, ces deux femmes mènent une vie extrêmement libre, en s'intégrant au cercle de Nathalie Barnet, poétesse et salonnière, ayant œuvré à créer un groupe de femmes artistes et lesbiennes à Paris. Elles fréquentent Romaine Brooke, Hélène Gray ou encore l'actrice et chanteuse Damia. Lorsqu'en 1928, Loy Fuller s'éteint des suites d'une pneumonie, il ne reste aucune trace de ses danses au voile en solo, comme de ses grands spectacles en fin de carrière. Car elle a toujours refusé que la caméra fixe ses mouvements, voulant tout maîtriser et surtout garder son spectacle vivant. Ainsi, malgré une longue et impressionnante carrière, elle fut pratiquement oubliée du grand public, mais elle devient rapidement une référence dans l'histoire de la danse, marquant un point d'articulation entre le music-hall, la performance et la danse moderne. Sa personnalité a cristallisé les inspirations de plusieurs courants artistiques au début du XXe siècle. Elle a laissé de multiples témoignages dans la peinture, la photographie et les arts décoratifs. Si l'art nouveau, avec son inspiration naturaliste et son culte des lignes sinueuses, a vu dans Loy Fuller une muse, le symbolisme s'est reconnu dans sa fascination pour les civilisations antiques. Quant aux futuristes, ils ont vu en elle la célébration du mouvement et de l'énergie.
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver tous les jours à 7h30 et 13h30.